Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Ravi de vous retrouver cette semaine, de vous retrouver aussi en cette nouvelle année, après ces fêtes de Noël qui, je l'espère, ont été reposantes pour chacun d'entre vous. Merci en tout cas de votre fidélité. Vous avez été très nombreux à nous suivre au cours de l'année 2021 et de plus en plus nombreux aussi. Nous espérons donc que cette année 2022 vous permettra à travers ces émissions de découvrir de nouveaux auteurs, de découvrir également de nouveaux sujets, et nous allons essayer de continuer à vous transporter à travers le monde et à travers des sujets parfois originaux, parfois curieux également, comme nous essayons de le faire et de vous montrer la diversité de la géopolitique. En ce mois de janvier 2022 paraît également notre nouveau numéro, dont le dossier est consacré au nucléaire. Le nucléaire traité à la fois sous l'angle civil et sous l'angle militaire, les deux d'ailleurs sont liés, comme vous le verrez dans le numéro, et nous essayons de montrer en quoi cette énergie est une énergie de plus en plus utilisée en Europe et ailleurs, et aussi quelles sont les questions posées autour des armements et la façon dont le nucléaire est en train de modifier la réflexion stratégique. En tout cas, le nucléaire demeure un élément actuel dans la géopolitique, dans l'énergie et dans la stratégie militaire. C'est ce que nous vous présentons dans ce numéro que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com. Alors pour ce première émission de l'année, nous allons continuer à voyager. Si vous avez pu voyager au cours des semaines qui se sont écoulées, nous allons voyager en train avec mon invité Antoine Pecker. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu au micro de Conflits. Vous êtes journaliste et vous venez de publier aux éditions Autrement une géopolitique du train, le train au cœur des enjeux contemporains. Leur édition Autrement, avec lesquelles nous réalisons régulièrement des émissions parce qu'ils ont une collection d'atlas qui est toujours extrêmement bien fournie et très bien réalisée. Cet ouvrage continue dans la veine de la collection. Alors, évidemment, par la radio, on voit moins d'images, c'est sûr, mais si vous avez l'occasion de croiser cet ouvrage en librairie, vous verrez qu'il y a des cartes extrêmement bien faites, une iconographie, une mise en page qui est très riche et qui, évidemment, complète agréablement l'ouvrage. Alors, nous allons parler du train et, comme vous le montrez dans votre ouvrage, le train est un mode de transport qui est en renouvellement, en continuité aussi, et qui a un grand avenir. On va commémorer quasiment bientôt le 200e anniversaire du rail, puisque les premières lignes de chemin de fer en Europe, c'est années 1820-1830. Donc c'est un moyen de transport qui est plus ancien que l'avion, bien évidemment, plus ancien que la voiture, et qui finalement, à deux siècles, on a l'impression parfois que c'est un mode de transport assez neuf, assez récent, alors que deux siècles, c'est quand même assez long. Pourquoi vous êtes intéressé au rail et quel a été le fil conducteur de cet ouvrage ?
Vous avez raison de rappeler cette approche historique, parce qu'on a un peu vécu avec l'histoire du rail une forme de grandeur et décadence dans un premier temps. Évidemment, tout au long du 19e siècle, le début du 20e siècle, c'est le développement du rail dans la suite de la révolution industrielle. Les lignes se développent à peu près sur tous les continents. Et puis ensuite, l'arrivée de la voiture, de l'avion, va avoir un impact très négatif pour le rail. Mais désormais, un nouveau chapitre s'ouvre sans doute. On parle de renaissance du rail. Ce qui est sûr, c'est que la crise sanitaire a encore montré évidemment combien l'écologie est un impératif, aujourd'hui une priorité évidemment pour toutes et tous. Et le rail, bien sûr, il permet de limiter, de réduire les émissions à gaz à effet de serre. Vous savez, en suédois, il y a même un mot, un flixcam, pour dire la honte de prendre l'avion. Donc plus que jamais, on incite à prendre le train. Alors qui ont ? Eh bien, les États, notamment, puisque évidemment très souvent c'est la puissance publique qui est derrière le rail. Et ce qui est intéressant, notamment, c'est que l'élection aux États-Unis remportée par Joe Biden, elle a été remportée par un Joe Biden fan des trains. On peut le dire, parce qu'on a désormais un président américain qui veut relancer le rail. Parce que si aux États-Unis le fret était important, le trafic passager, lui, était presque marginal. Mais Joe Biden, maintenant, rêve de relancer ce transport ferroviaire. Vous savez, il a lancé un plan d'infrastructure très important, néo-keynésien. Et maintenant, ce plan, notamment, beaucoup d'argent sont investis pour le rail. Mais en face, il y a une puissance, et non des moindres, c'est la Chine. La Chine qui a une forme de leadership sur le rail, avec 38 000 km de voies ferrées. Vous voyez, évidemment, déjà, dans ces quelques phrases, tous les enjeux qui peuvent se trouver d'un point de vue géopolitique à l'échelle du monde, aussi à l'échelle des échelles plus régionales. Bref, le train, c'était à travers ce livre l'idée de raconter le monde autrement.
Alors, vous l'avez dit, dans le train, il y a le transport du fret et des passagers. Or, par rapport au bateau, le bateau reste quand même le roi en matière de transport de fret parce qu'il peut transporter beaucoup plus de choses. En revanche, il est plus long. Donc là où le train a un avantage par rapport au bateau, c'est dans sa rapidité. Et on voit émerger de nouvelles lignes ou des anciennes lignes qui sont réaménagées, notamment pour les transports transcontinentaux, pour le fret.
Exactement, parce que le train, il est moins cher que l'avion et il est plus rapide que le bateau. Donc il a des avantages. Effectivement, le fret maritime reste devant, mais les choses changent et surtout, il y a de plus en plus la complémentarité qui est pensée entre le fret maritime et le fret ferroviaire. Et notamment par qui ? Ben, on reparle de la Chine à travers ces nouvelles routes de la soie, parce qu'évidemment, cet axe-là, qui est un grand axe commercial qui réinvente la relation de la Chine avec le reste du monde, d'une certaine façon, et ben, c'est notamment cette complémentarité entre les bateaux et les trains que veut mettre en avant le régime de Xi Jinping. Et donc, c'est intéressant de voir avec cette idée quelle peut être la place de l'Europe également. Et sur le fret, eh ben, l'Union européenne a prévu de doubler le fret d'ici 2030. Donc, il y a vraiment un plan avec derrière, évidemment, des velléités écologiques, mais qui, évidemment, montre que au-delà du trafic passager, parce que souvent, le train, on l'associe avant tout aux passagers, cette dimension du fret, elle est nécessaire. Et elle est plus que jamais indispensable. Après, il faut bien dire quand même un petit peu une stratégie qui n'était pas très claire. Je pense notamment à la situation en France. On a un gouvernement qui, il y a quelques années, a pu supprimer des lignes de fret. Ou encore, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, eh ben, il était derrière la fameuse relance des lignes d'autocars pour remplacer les trains de nuit. Mais désormais, ben, qu'est-ce qui se passe ? On relance les trains de nuit. Donc, on voit un petit peu qu'on est dans un mouvement, une renaissance assez récente, suite, il faut bien dire, à des erreurs stratégiques fortes qui ont été de mettre le train de côté. Or, c'est bien le moyen du futur.
Alors, vous parlez de complémentarité, c'est effectivement un point important dans le transport parce que il y a entre notamment ce qu'on appelle le dernier kilomètre, donc là, dans le transport de marchandises, souvent on a le bateau, le train, le camion, voire la camionnette lorsqu'on est en ville, voire le vélo hein, ensuite. Donc, dans le transport de fret, c'est tout un ensemble de moyens de transport qui sont utilisés aujourd'hui, dont le train est un élément, une pièce du puzzle.
Exactement, parce que ce dernier kilomètre, c'est la bataille notamment de tous les géants des plateformes en ligne, type Amazon notamment, bien sûr de réduire au maximum cette distance, ce temps. Là-dedans, le train a beaucoup à jouer, notamment dans sa connexion avec les transports en commun de manière générale. Je pense notamment à différentes villes qui mettent en place des offres tram-train, c'est-à-dire que c'est les mêmes lignes sur lesquelles peuvent s'engager les trains et les trams. Donc il y a vraiment à repenser, je pense, ce mode-là, et c'est notamment la question de l'intermodalité qui est essentielle, de repenser notamment les gares comme des plateformes, que ce soit les gares passagers ou les gares de triage.
Alors vous évoquez les gares, c'est un autre sujet du train, c'est l'infrastructure. Sur lequel il a un aspect différent de l'avion. Bon, l'avion, c'est deux aéroports connectés et puis des lignes aériennes qui ne nécessitent pas d'infrastructure puisqu'on est dans l'air. En revanche, pour le train, il faut à la fois la gare et puis il y a toute la construction de la voie ferrée. Or, alors, on parlera d'exemples concrets, enfin précis tout à l'heure, avec notamment des lignes qui traversent des frontières et parfois des frontières dangereuses, voire militarisées. Mais la construction de ces voies ferrées, c'est aussi un enjeu important pour les États en termes de moyens mobilisés, puis à l'entretien également de la voie ferrée.
Bien sûr, c'est très cher. Par exemple, en France, la France est l'un des pays où le coût du péage, c'est-à-dire ce que les trains doivent payer pour circuler sur les voies, est le plus élevé. Parce qu'il y a une branche différente à la SNCF de ceux qui s'occupent du réseau et ceux, la branche voyageurs, qui fait circuler les trains. Et donc, on a un coût de péage très élevé en France, par exemple, par rapport à l'Italie, qui a l'un des coûts de péage les moins importants d'Europe, parce qu'effectivement, ça, c'est une notion très importante, ce coût des infrastructures, qui interpelle parfois, notamment dans la relance des lignes à grande vitesse. Il y a certaines lignes qui, aujourd'hui, veulent être relancées. Emmanuel Macron en a fait des annonces à l'occasion des 40 ans du TGV. Et ça fait débat, parce que notamment d'un point de vue environnemental, certains peuvent dire, bien sûr, le train accompagne et permet évidemment une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais la construction de ces infrastructures, elle, peut ne pas être très bonne pour la planète, et parfois, faut-il pas mieux rénover l'existant, penser notamment aux lignes qui ne relient pas directement la capitale à des grandes agglomérations, mais qui traversent parfois des territoires, ce qu'on appelle les déserts un petit peu ruraux, et où parfois la connexion de transport manque. Je pense qu'il y a, voilà, il y a toute une réflexion qui se fait là-dessus. En tout cas, les infrastructures coûtent cher. Et ce qui est intéressant pour parler des gares plus spécifiquement, c'est qu'on assiste aujourd'hui vraiment à une manière de repenser l'architecture de la gare. Parce qu'il y a eu la grande période, là encore face, le 19e siècle, toutes les belles gares parisiennes qu'on voit notamment, et d'autres qui sont des vrais chefs-d'œuvre. Au cours du 20e siècle, il faut bien dire, il y a eu parfois des architectures de gare ratées.
Oui, on parlait de hall de gare, c'était pas
voilà, très exactement, positif, oui. Exactement.
Mais des venteux et
voilà, voilà, exactement. Après, on est allé un peu sur des trucs techniques, technologiques, pas non plus bien, très réussis. Et puis désormais, eh ben, il y a des innovations beaucoup plus intéressantes. Il y a des grands architectes qui se lancent. Je pense à Rudy Ricciotti qui a réalisé des aménagements à la gare de Nantes, à Dominique Perrault pour la gare de Naples. Aujourd'hui, ces architectes essayent de repenser vraiment la fonction de la gare, non seulement en tant que bâtiment, en tant que geste, mais aussi son insertion dans le contexte urbain, connecté aux autres moyens de transport. Finalement, le quartier de la gare pouvait parfois être des quartiers un petit peu malfamés, très souvent. Eh ben, le repenser au contraire, une amélioration de la sécurité, en faire des pôles de vie essentiels, et puis peut-être éviter certaines dérives commerciales qu'il y a pu avoir. Il y a eu des polémiques autour de la gare du Nord, notamment à Paris, et d'ailleurs ils ont arrêté le projet, parce que trop de commerce, de vouloir copier à tout prix le modèle de l'aéroport pour les gares, et ben ça fait perdre un petit peu aussi la vocation première, qui est quand même de prendre des trains. Mmh.
Et c'est vrai que la gare est aujourd'hui, ou de plus en plus du moins, un lieu où on peut y avoir des bureaux, notamment sur les, s'il y a une tour sur les hauteurs, des commerces, des cafés, donc on en fait aussi un lieu où les gens peuvent venir, pas forcément pour prendre un train, mais pour travailler, et donc comme un lieu de rencontre aussi entre différentes lignes qui se rejoignent à un point donné.
Exactement, il y a cette idée de lieu de vie qui peut être très belle, pourquoi pas des lieux culturels liés aux gares, ça c'est vraiment des idées très belles, il y a pas mal d'anciennes gares qui ont été réhabilitées en salle de concert par exemple, c'est le cas à Baden-Baden ou à São Paulo au Brésil, mais pourquoi pas lier ça. Mais la démarche à tout prix commerçante, je pense, elle, en tout cas, a rebuté pas mal de riverains qui se sont parfois opposés à ces rénovations de gare, parce que déjà souvent, il y a un patrimoine ferroviaire qui est magnifique en termes d'infrastructure, et puis il faut aussi faciliter à tout prix les flux passagers, et ça, c'est vraiment un grand défi d'ingénierie, très souvent, tout simplement de permettre une connexion du métro au train, et ça, c'est pas évident.
Vous avez évoqué le cas français, alors il y a la SNCF qui est le transporteur, et puis Réseau Ferré de France qui gère l'infrastructure, mais c'est deux entreprises différentes. Vous dites que le prix du péage est plus cher en France qu'en Italie. Pour quelle raison il y a cet écart de prix ?
Eh ben, je pense que c'est justement des choses qui doivent s'inviter un petit peu dans la question politique, peut-être qui doivent être un sujet pour la prochaine élection présidentielle, parce que cette question du transport, effectivement, elle peut parfois pénaliser d'autres opérateurs, ce prix du péage. Or, comme vous savez, on est dans un mouvement de libéralisation du rail. C'est des directives européennes qui ont ensuite été transposées dans la loi française. Et désormais, il y a de nouveaux opérateurs pour le rail en France qui se mettent en place. Et des opérateurs intéressants. RailCop, par exemple, c'est une coopérative qui veut relancer les lignes un petit peu oubliées. Par exemple, la ligne Lyon-Bordeaux, qui n'était plus exploitée par la SNCF. Or, cette coopérative veut la remettre en état. Il y a Midnight Trains, par exemple, qui est une start-up. C'est un autre modèle économique, avec notamment parmi ses investisseurs Xavier Niel. Et eux veulent relancer les trains de nuit. Mais pour eux, évidemment, la gageure, c'est de payer ces prix de péage très élevés, souvent en France par rapport à d'autres pays. Donc, il faut voir si la stratégie, c'est de laisser le monopole à la SNCF. Il faut aussi peut-être s'interroger sur la multiplicité d'acteurs privés, aussi à l'échelle régionale. Transdev a remporté récemment les trains régionaux, une ligne de train régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que la multiplicité des acteurs, des opérateurs privés, eh ben, ça va être un plus pour l'usager, ou au contraire, ça va compliquer les choses? On a l'exemple de la Grande-Bretagne, notamment, qui en revient de sa surlibéralisation du rail.
Transavia, qui est italien, fait aussi la liaison Paris-Lyon, et puis après l'Italie. Et la SNCF est aussi présente à l'étranger, d'ailleurs. Elle fait circuler certains trains en Espagne, me semble-t-il.
Exactement. Ouigo, la fameuse marque un peu de TGV low cost, s'est développée en Espagne, où c'était un sacré défi, parce que ce n'est pas les mêmes types de lignes de train. Donc, il fallait évidemment adapter le matériel. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir que la SNCF elle-même se développe, profite de la libéralisation du rail dans d'autres pays. Donc doit aussi jouer le jeu, d'une certaine façon en France, bien évidemment. Il faut voir maintenant jusqu'à quel point cette libéralisation, c'est un plus. Je pense que sur l'exemple Paris-Lyon-Milan, le fait d'avoir une autre compagnie, c'est-à-dire une compagnie privée italienne, qui va se mettre sur cet axe-là, ça doit être dans quelques jours, quelques semaines, à l'heure où on parle, Là, ça peut être intéressant parce que c'est une ligne qui est aujourd'hui saturée. La SNCF n'arrive pas à faire, il suffit de rentrer. Moi, j'ai pris plusieurs fois cette ligne. Elle est bondée, donc tant mieux. Et puis aussi, ça peut être un plus, c'est-à-dire que les chemins de fer italiens, enfin cette ligne privée italienne, elle propose des 4 classes de confort avec vraiment des services très, très forts. Et bien, tant mieux si ça peut monter un peu par le haut des services de la SNCF.
Et la RATP fait circuler des bus à Londres. Les voilà. Londoniens sont siglés RATP, donc... on va rester sur le sujet des entreprises parce que c'est intéressant. On voit le train évidemment en tant qu'objet, mais derrière il y a quand même des enjeux économiques importants, notamment dans l'ouvrage. Il y a un chapitre qui est consacré à cette ligne de train Mauritanie-Maroc pour transporter les minerais de fer. Et vous dites donc que les wagons, enfin, du moins une partie des wagons, sont produits par l'entreprise chinoise. Et il y a aussi, on va y revenir, à la Chine très présente en Afrique. Dans la construction des lignes de train cette fois-ci, enfin des lignes ferroviaires. Donc, General Motors fait quelques trains, et Bombardier également. Donc, il y a une compétition aussi des entreprises, ce qui est compréhensible et normal, pour faire valoir leurs trains et les infrastructures qu'elles vendent après au pays.
Ah, complètement. Et l'Afrique, évidemment, c'est une terre de convoitise. Parce qu'on y retrouve différents acteurs, c'est ça qui est très intéressant. Il y a évidemment l'acteur peut-être désormais principal, vous l'avez dit, c'est la Chine. La Chine qui fait des deals assez simples avec les pays, c'est la construction d'infrastructures en échange de l'accès aux matières premières. Et ça, ils le font dans un grand nombre de pays et ils relancent ainsi des lignes de train. La première, d'ailleurs le premier grand projet de la Chine-Afrique, j'en consacre l'un des chapitres, c'est le Tazara, c'est une ligne de train que j'ai eu la chance de prendre, qui va de Dar es Salaam en Tanzanie à Kapirimbochi en Zambie, pas très loin de Lusaka, de la capitale. Et cette ligne de train, elle a été construite à l'époque de Mao Tse-tung. C'est vous dire que ce lien de la Chine-Afrique, il remonte. Et depuis, évidemment, et plus que jamais avec ce projet de nouvelle route de la soie dont je parlais, évidemment, le rail en Afrique, il suscite la convoitise. Mais en face, il y a d'autres acteurs, et notamment un acteur qu'on connaît bien en France, Vincent Bolloré, qui a relancé différentes lignes de train via des filiales, mais non sans mal, parce qu'au Cameroun, sa filiale a essuyé un accident qui a fait beaucoup de morts, des dizaines de morts. Il y a d'ailleurs le procès en appel.
C'est le terrain qui s'est effacé.
Exactement.
Il y a eu une
orage. Exactement, bien sûr. Mais l'affaire est encore entre les mains de la justice. Et puis, il y a, et là j'en consacre un chapitre, cette question de la boucle ferroviaire, qui était un gros projet en Afrique de l'Ouest. Bolloré était plutôt bien parti, mais justement, l'un des pays, le Bénin, pour ne pas le nommer, a préféré finalement prendre un acteur chinois pour réaliser une partie du tronçon. Et donc, tout ça, c'est un peu des déconvenues pour Bolloré. Et vous l'avez sans doute lu, certains se demandent si Bolloré n'est pas en train désormais de quitter un petit peu le marché africain et d'être dans une idée de revente de ses activités en Afrique. Donc ça, ce sera à suivre. En tout cas, pour l'instant, il est quand même présent encore. Il y a beaucoup de trains, j'ai eu l'occasion d'en prendre, notamment au Burkina Faso, qui sont des trains gérés par des filiales de Bolloré. Mais vous le voyez, il y a en fait toujours cette question entre la Chine, Bolloré. Il y a pour la gestion du rail en Afrique encore un petit peu un aspect de colonialisme ou de néocolonialisme, en tout cas d'ingérence. L'exemple du minéralier, il est un peu à part, ce train que vous évoquiez à la frontière entre la Mauritanie et le Sahara occidental, parce qu'il est toujours exploité quand même par cette compagnie mauritanienne, alors avec des wagons chinois, mais ça reste cette compagnie d'État, même si le train, là, c'est vraiment la chambre d'écho des tensions régionales.
Alors justement, dans le chapitre que vous consacrez à ce train, vous expliquez... comme on est en Sahara occidental avec les problèmes liés au Front Polisario et aux revendications territoriales, que le train s'est fait attaquer plusieurs fois parce qu'il se retrouve dans la zone revendiquée, dans la zone de tension.
Complètement, ils ont même dû modifier le tronçon. Et je le montre justement avec la carte, vous l'avez dit, il y a vraiment, j'ai fait ce livre en collaboration avec un cartographe, Arthur Beaubois-Jude, c'est son nom, il a fait des cartes magnifiques, j'étais ravi de travailler avec lui. C'était vraiment un travail en binôme, et notamment par exemple sur cette ligne, c'était l'idée de montrer comment ce conflit il a impacté le tracé même de la ligne, avec cette question d'un tunnel, le tunnel de Choum. Donc on le montre au niveau des cartes, et puis effectivement ces différentes attaques, et aujourd'hui encore ce train il est très sensible, parce qu'il y a à la fois le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie est pas loin, la Mauritanie, qui essaye de trouver la bonne attitude par rapport à cette instabilité. Bref, c'est vraiment le train se retrouve, voilà, je l'ai dit, au cœur même des tensions régionales, parce que derrière, il y a une question. La géopolitique et la géoéconomie sont toujours très proches. Et d'un point de vue géoéconomique, évidemment, c'est la question des minerais qu'on fait voyager par ce train, qui est sans doute le plus long train au monde, le minéralier.
Et vous dites que, oui, il fait quasiment 2,5 km de long, il y a 200 wagons quasiment.
Voilà, c'est énorme. C'est des convois dantesques. Hein.
Ouais. Si on reste sur la partie africaine, donc vous mentionnez évidemment la présence de la Chine qui est de plus en plus importante, ce qui suppose aussi des travaux majeurs pour faire passer ces lignes de train. En plus, on est dans des zones souvent, enfin, parfois tropicales, donc climat compliqué, notamment pour la question de la stabilité du sol. Donc ça suppose là des travaux de terrassement majeurs.
Alors, il y a des travaux, mais il y a aussi surtout beaucoup de travaux de rénovation. Parce qu'il y a beaucoup de lignes qui étaient existantes, mais qui étaient évidemment dans un très mauvais état. Ces lignes, elles ont été construites très souvent pendant la période coloniale et dans des conditions atroces. Il faut bien le dire, je le rappelle dans l'introduction historique, mais évidemment, la ligne comme le Congo-Océan, par exemple, qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, les lignes en Namibie, ben, c'est des lignes qui ont été construites avec une population locale qui était réduite à un état d'esclavage. Enfin, et d'ailleurs, le nombre de morts l'illustre parfaitement. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours, quand on est sur ces lignes de train, je les ai beaucoup prises en Afrique subsaharienne, il y a quelque chose de dur. On est là et on sent les morts que ça a fallu pour la construction de ces lignes. Aujourd'hui, les Chinois qui arrivent, ils s'encombrent pas de ces histoires-là. Parce qu'ils arrivent un peu comme en terrain vierge, d'une certaine façon. Alors, ils ont ces lignes, ils essayent de les relancer, de relancer les infrastructures. Et justement, un peu leur force, ou peut-être leur faiblesse aussi, c'est d'arriver sans connaître complètement l'histoire ou le contexte, mais c'est avec ce but précis de relancer ces infrastructures pour leur propre usage, les fameuses nouvelles routes de la soie, et surtout, dans leur échange, de se dire au pays, ben voilà, on vous remet en place les infrastructures, mais derrière, eh ben, laissez-nous exploiter vos richesses.
Et en Asie centrale, on retrouve ces lignes ferroviaires chinoises. Justement, là, on est au cœur, au centre de ces nouvelles routes de la soie.
Exactement, parce que l'idée de la Chine, c'était d'avoir différents axes pour aller notamment de la Chine en Europe. Et pourquoi différents axes? Pour ne pas dépendre d'un seul pays. C'est-à-dire, évidemment, si jamais il y a un pays qui est en proie à des tensions ou voilà, une situation de conflit avec Pékin, eh ben, on peut prendre une autre ligne. Donc, il y a ainsi différentes lignes qui maintenant connectent la Chine à l'Europe par le sud, où on va passer Pakistan, Iran, jusqu'à la Turquie, évidemment par le nord, par l'Asie centrale. Et il y a même certains projets qui se sont faits, alors évidemment ralentis dans le contexte actuel avec l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan, mais une ligne d'aller justement de l'Asie centrale jusqu'au Pakistan, pour permettre aussi à ces États d'Asie centrale d'avoir des débouchés maritimes, qui étaient très souvent, ces États d'Asie centrale, dépendants de Moscou. Évidemment, c'est tout ça, c'est l'ex-URSS, et le bloc soviétique avait mis en avant le rail. Aujourd'hui, pour avoir d'autres corridors ferroviaires et d'autres débouchés maritimes, eh ben, c'est notamment l'alliance des nouvelles routes de la soie. Donc, et on retrouve un peu justement cette dialectique entre Moscou et Pékin.
Alors, il y a un autre chapitre, enfin, il y a plusieurs chapitres dans l'ouvrage, notamment un qui est intéressant par la nouveauté qu'il apporte, c'est l'hyperloop qui se fait au niveau des pays du Golfe, avec des trains qui pourraient y circuler à 1000 km/h. Oui, là, on même pas imaginer ce que ça peut donner en matière de vitesse, et finalement faire une sorte de grand métro à l'échelle des pays du Golfe.
Exactement, ça c'est le rêve d'Elon Musk. On le connaît, hein, évidemment, notamment pour les voitures Tesla, pour SpaceX, et un inventeur fou, pas vraiment en fait, plutôt vraiment un grand sens du business, puisqu'évidemment c'était misé sur ce type de transport, c'est, on l'a bien dit, un transport d'avenir, et en misant donc sur une vitesse qui est là directement, qui est la même que l'avion, d'une certaine façon, ou presque, et en tout cas, donc ultra concurrentiel. C'est pas le seul à miser à faire cette course sur la vitesse. Il y a notamment une course aussi entre la Chine et le Japon sur des TGV roulant à 700-800 km/h pour justement là être, de plus laisser aucune possibilité à l'avion d'avoir encore un intérêt, un atout par rapport au train. Mais On n'y est pas encore, bien sûr. Il y a des essais, il y a des tests, ainsi de suite. L'Hyperloop ou ces trains-là, ce seront souvent des trains qui seront enfermés en fait dans des tunnels. On n'aura ni fenêtres, ni quelconque. Enfin, il y a quelque chose de presque un petit peu anxiogène quand on l'imagine. Donc, il réfléchit déjà à des installations vidéo à l'intérieur, ainsi de suite. Mais en tout cas, ça montre bien que cette innovation-là sur le train, elle ne va que s'accélérer. Très clairement, aujourd'hui, c'est là où se fait l'innovation, beaucoup plus que dans le transport aérien.
Et comment ça fonctionne? C'est par système électromagnétique?
Exactement. Et vous savez qui c'est qui a inventé ça? On va faire un petit cocorico, et ben parce que c'est en France qu'il y a eu ces rames de l'aérotrain. L'aérotrain, c'était cette innovation complètement géniale, un ingénieur Jean Bertin, qui fait ça avec une ligne test au nord d'Orléans. Si on prend encore aujourd'hui la ligne de train classique, hein, Paris-Orléans, avant d'arriver aux Aubrais, donc avant d'arriver à Orléans, on peut voir ces pylônes en béton avec des lignes pour accueillir un monorail. On voit aussi ça dans le film de François Truffaut, Fahrenheit. C'est, on dirait, un décor de science-fiction. Mais l'idée, c'était que justement, par suspension électromagnétique, eh bien, les trains n'ayant aucune voie routière et tout ça à traverser, étant en hauteur, ils peuvent aller très vite. Cette idée était géniale, jusque ce pauvre ingénieur, il y a eu le crash pétrolier, il y a eu un changement politique et l'arrivée du TGV. Et l'arrivée du TGV a signé la mort de ce train français à suspension électromagnétique. Mais d'autres sont arrivés derrière. Notamment les Allemands, Maglev, la Chine, puisque vous avez aujourd'hui ce type de train à Shanghai, entre l'aéroport et le centre-ville, pas exactement le centre-ville, mais en tout cas pour se rapprocher du centre-ville. J'ai pris ce train, c'est évidemment, l'effet de la vitesse est vertigineux. C'est un peu une ligne test. On ne s'imagine pas encore à grande échelle. Ça coûte évidemment très cher, ça pose plein de questions, notamment de sécurité, on s'en doute. Mais en tout cas, ces trains-là, ce système-là, permet d'aller extrêmement vite, je l'ai dit, des vitesses comme 700-800 km/h.
Au début de l'aventure du train, dans les années 1830-1840, il y avait des écrits de médecins ou de scientifiques qui expliquaient que le corps humain ne pourrait jamais résister au fait d'être transporté à 40 ou 50 km/h. Bon, l'expérience a montré qu'on pouvait résister, mais... là, est-ce qu'on a des tests ou des réflexions sur ce que ça pourrait avoir éventuellement, transporter des corps à une telle vitesse psychologique ou peut-être physique aussi?
C'est justement pour ça qu'ils essayent de penser vraiment tout l'intérieur des trains. Je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus pensé pour faciliter au mieux des trajets. Déjà, la grande vitesse, on peut la sentir dans certaines lignes, dans de simples rames Alstom ou Siemens à grande vitesse qui circulent pour les TGV de la SNCF ou les ITC, par exemple, de la Deutsche Bahn, la compagnie allemande. Mais là, pour des trains qui seraient sans fenêtres, enfermés dans des tunnels, oui, donc il y a ces réflexions à des projections. Il y a la question aussi du son, qui est très important, la question acoustique, auditive, d'où ces phases de test qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et qui sont donc au cœur aujourd'hui de cette véritable guerre entre la Chine et le Japon. Le Japon, ils ont été pionniers de la grande vitesse, il faut le rappeler, avec les Shinkansen, hein, les fameux TGV japonais, qui ont été pensés comme rame, comme équipement, comme infrastructure, vraiment, il y avait vraiment une pensée globale. En face, les Chinois, ils ont accéléré leur développement de la grande vitesse à une vitesse folle. Au départ, c'était très simple. La Chine s'est lancée. Ils ont pris d'abord des rames de compagnies étrangères, type Alstom. Ils ont regardé comment c'était fait. Désormais, ils ont leurs propres entreprises pour développer là-dessus. Les Japonais sont plus chers. Les Chinois ont quelques problèmes de sécurité. Il y a eu des accidents de trains à grande vitesse. Mais en tout cas, la bataille, elle va se faire à ce niveau-là pour cette ultra grande vitesse. Et aussi pour développer des lignes à grande vitesse en dehors de ces deux pays. C'est les Japonais, par exemple, qui ont gagné le marché en Inde. C'est eux qui vont développer la grande vitesse en Inde. Aussi pour des raisons de mésentente entre Narendra Modi et Xi Jinping, entre le dirigeant indien et le dirigeant chinois. Et l'Indonésie, par contre, ou la Thaïlande, là, c'est la Chine qui a gagné. Vous voyez, c'est vraiment une bataille à l'échelle même globale de l'Asie.
Alors, on voit comment le train peut se développer en zone de plaine. Mais en zone montagneuse, et je pense notamment à un continent comme l'Amérique latine, où il n'y a pas que de la montagne, mais enfin, il y a quand même la cordillère des Andes des zones beaucoup plus vallonnées. Là, d'un point de vue technique, c'est tout de suite plus compliqué. Il faut faire des tunnels, il faut faire des ponts également. Et pourtant, vous le montrez, il y en a là aussi un système ferroviaire bien développé.
Oui, il y a surtout un projet complètement fou. Parce qu'il y a eu beaucoup de lignes de trans-andins, c'est-à-dire à travers les Andes qui se sont faites, mais qui n'ont jamais vraiment marché. Il y a eu beaucoup de lignes qui ont été abandonnées. C'était soit des problèmes de sécurité, ça coûtait très cher, et ainsi de suite, ça n'arrivait pas à concurrencer la route. Mais aujourd'hui, il y a un projet fou, on peut le dire, de transandin, mais surtout de transocéan, c'est-à-dire d'aller de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, du Brésil au Pérou, en passant par un pays, la Bolivie. Et c'est ce pays-là qui est au cœur même de ce dispositif, puisque c'est Evo Morales, l'ancien dirigeant bolivien, qui l'avait lancé en s'alliant avec qui, évidemment, la Chine, dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie, qui vont décidément bien loin et ne se limitent plus à l'ancien axe des nouvelles routes de la soie par Samarkand et l'Ouzbékistan. On est très loin là de l'Asie centrale. On est au cœur de l'Amérique du Sud. Et l'idée, en fait, c'est de créer un nouveau canal du Panama. Parce qu'on voit bien que ce canal du Panama, il est surchargé. On parlait du fret maritime, justement. Et bien là, c'est de passer en fret ferroviaire d'un océan à l'autre. C'est un projet complètement fou. La Chine est derrière, la Bolivie est pour. Pourquoi ? Parce que la Bolivie veut son débouché maritime. C'était l'objet d'un grand conflit avec le Chili. Elle n'a pas obtenu gain de cause, comme on le sait, après les décisions de justice, la Bolivie. Donc, c'est une symbolique forte, mais c'est des gouvernements qui n'ont rien à voir.
Ceci dit, les gouvernements peuvent changer. C'est pour les projets qui se font sur parfois 20 ou 30 ans, peut-être que d'ici quelques années, les choses changeront. Mais vous parlez effectivement de cet accès à la mer, ça c'est essentiel pour la Bolivie. Puis depuis que ça reste chez pour un traumatisme, et on les comprend aussi, de manquer d'accès à la mer. Il y a un autre pays qui est intéressant pour la montagne, c'est la Suisse. Vous y consacrez là aussi un chapitre. Alors la Suisse, c'est un gruyère, sauf que le gruyère suisse n'a pas de trous. Donc, en tout cas, le gruyère ferroviaire suisse, lui, il a des trous et notamment nombreux tunnels pour faire passer la voie ferrée.
C'est des infrastructures incroyables. Moi, je vous invite à prendre le train en Suisse. C'est le pays, la Suisse, où les voyageurs utilisent le plus le train. Dans le monde. Les deux pays qui sont toujours un petit peu au niveau des chiffres très proches, c'est le Japon, dont on a parlé, et la Suisse. Deux pays d'ailleurs montagneux, comme vous le savez. La Suisse, en fait, c'était vraiment l'idée de pouvoir accéder presque dans chaque vallée par le train. Donc, il y a évidemment derrière, on peut avoir une conscience écologique, une vraie conscience des transports, et puis, c'est une technique, une ingénierie de fou, avec ces chemins de fer à crémaillère, qui ont été vraiment révolutionnaires. Et aujourd'hui, on a différentes compagnies. Parce qu'il y a évidemment la compagnie nationale, CFF, SBB, FFS, mais aussi beaucoup d'autres opérateurs régionaux, privés, et tous fonctionnent très bien ensemble. Par exemple, à un guichet, un automate en Suisse, vous pouvez prendre un billet, peu importe la compagnie que vous allez utiliser. Donc, il y a vraiment une grande facilité. Et il faut voir aujourd'hui, quand on arrive dans une gare en Suisse, elle est directement connectée, le quai, on est directement presque dans le village. Et puis, il y a un car postal, si jamais on veut monter dans un alpage, vous avez cette connexion qui est fantastique, avec des règles d'or qui sont notamment le cadencement. Le cadencement, c'est les trains à chaque heure à la même heure, ce qui permet d'avoir une régularité, avec évidemment très peu de retard, mais surtout aussi des habitudes. Parce que si en France, on a parfois perdu l'usage, l'habitude du ferroviaire, c'est que quand vous avez une ligne en campagne ou vous avez deux trains dans la journée, ça ne vous incite pas tellement à prendre le train. Si vous en avez un à chaque heure, depuis 5h du matin jusqu'à 22h, vous savez qu'il sera toujours à telle heure, qu'il sera à l'heure, ben là, pourquoi prendre votre voiture ?
Est-ce qu'il n'y a pas un élément démographique qui pourrait aller à gêner le développement du train ? C'est le vieillissement de la population. Puisque pour prendre le train, c'est plutôt d'avoir des valises, de les porter, de marcher aussi dans la gare. Donc, on peut imaginer que des gens jeunes et bien portants, ça passe. Pour des personnes plus âgées, ou alors il faut leur fournir le service de transport de bagages, voire transporter dans la gare. Mais là aussi, c'est peut-être un enjeu.
Je pense que le développement des services, c'est effectivement un enjeu majeur pour le futur. Repenser aussi les gares. Sur cet aspect-là, peut-être oublier d'avoir une énième enseigne Zara, mais peut-être davantage effectivement du transport simplement de valises, ce type de choses, de services. Et puis après, quand même, le train, il a un grand avantage, par exemple, par rapport à l'avion, sur les dessertes nocturnes, parce qu'on voit de nouveau ce renouveau peu à peu des trains de nuit. Et on voit notamment pas mal de personnes âgées dans ces trains de nuit. Pourquoi ? Parce que elles peuvent être à deux dans un petit compartiment. Alors, c'est un petit côté romantique, évidemment. Mais surtout, bah, ça évite parfois de prendre l'avion et d'aller à l'aéroport, de passer les fils de sécurité et ainsi de suite. Pour des personnes âgées, je vais même vous dire pour tout le monde, c'est rarement quelque chose de très agréable. Et là, en réinventant le train aussi sous un aspect esthétique, avec vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, on vit une expérience, pour moi, il y a quelque chose de salutaire. Et donc aujourd'hui, notamment dans les chemins de fer autrichiens, parce que c'est eux qui ont beaucoup relancé les trains de nuit en Europe, ÖBB, la compagnie, et ben vous avez dans une rame, vous avez aussi bien des jeunes qui montent dans un train parce que ils croient en l'impératif écologique et qui font ça par conviction environnementale. Vous avez des gens qui veulent, pour des raisons économiques, veulent économiser une nuit d'hôtel, tout simplement. Et puis, vous avez des personnes âgées qui n'ont pas envie de prendre l'avion. Donc, vous avez vraiment ce mélange sociologique qui est très, très chouette dans les trains de nuit. Et il y a de nouvelles lignes qui se sont lancées ben, depuis décembre, notamment à Paris-Vienne, qu'on peut refaire en train de nuit. Moi, je suis pas du tout actionnaire de quoi que ce soit. Mais par contre, je ne peux que inciter parce que arriver le petit matin à Vienne ou à Venise, on arrive à Venise, on est directement au bord du Grand Canal, c'est mieux que d'arriver dans un terminal d'aéroport.
Donc la gare de Vienne est superbe.
Exactement, donc, voilà.
L'endroit est magnifique. D'ailleurs, on avait consacré une émission il y a 2 ans maintenant à l'aéroport Charles de Gaulle et l'auteur expliquait effectivement que c'était un des enjeux des aéroports d'avoir un charme particulier. Finalement, ils se ressemblent tous. Et on est un peu dans l'ancienne hall de gare, en quelque sorte. L'aéroport a un côté froid et il manque de charme. Les gares sont en train de retrouver ça, comme on l'a dit en début d'émission, et c'est ce qui fait aussi leur intérêt d'avoir de nouveau cette patine un petit peu locale avec un style architectural qui leur donne un charme.
Bien sûr, et c'est l'objet notamment des gares, on pense aux grandes lignes de train, mais aussi par exemple pour le Grand Paris Express. Il y a tout des appels d'offres là, sur les gares, beaucoup de très bonnes agences d'architecture qui se sont lancées. Et c'est vraiment aussi un enjeu. Ce n'est pas facile hein, de construire une gare, parce que quand vous êtes architecte et que vous construisez une gare, vous avez évidemment l'opérateur de train. Vous avez celui qui fait les bus, vous avez la ville, vous avez l'État, vous avez énormément de public, de privé, vous avez les associations de riverains. Bref, le tour de table, il est compliqué. Mettre tout le monde d'accord, c'est une gageure. Mais c'est bien un enjeu et c'est que la gare soit un phare vraiment dans la ville. Je crois que c'est vraiment un bel enjeu. Et puis, le plaisir de retrouver des beaux buffets de gare. On en voit quelques-uns qui se relancent et tant mieux.
Est-ce qu'on a des trains sous-marins ? Alors, il y a tout bien sous la Manche. Mais est-ce qu'on a d'autres exemples de trains sous-marins et pourquoi pas, est-ce que si on arrive à faire des trains qui vont à 1000 km/h, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un jour un train qui relierait Le Havre à New York sous l'océan Atlantique ?
Exactement, là vous faites un peu du Jules Verne, hein. Mais et tant mieux, il y a un projet très intéressant hein, en l'occurrence qui en ferait le tunnel sous-marin le plus long au monde, c'est entre Tallinn et Helsinki, entre l'Estonie et la Finlande. C'est dans le cadre du Rail Baltica. Rail Baltica, c'est relier la Pologne, donc à la Finlande, par le train, à travers les Pays-Baltes. Évidemment, un but, c'est permettre aux Pays-Baltes de ne plus dépendre en matière de transport de la Russie. C'est tout l'enjeu. Là, un enjeu géopolitique évidemment fort, économique également. Et donc, il y a la construction de cette ligne, mais il y a au bout donc, un tunnel pour aller, que les trains puissent aller de Tallinn à Helsinki. Et là, c'est un projet colossal. La Chine est notamment l'un des financeurs de ce tunnel qui est en train d'être relancé. Et ça en ferait donc le tunnel ferroviaire le plus long au monde. On le voit, il y aura plein d'autres tunnels sous la Manche qui pourront se créer dans les prochaines années.
Qu'est-ce que vous voyez comme évolution possible dans les années qui viennent pour le train, qui sont déjà en cours et qui pourraient vraiment changer la manière de prendre le train ?
Alors, je pense qu'il va se poser plusieurs questions. Je pense que l'un des grands débats, ça va être de se dire, est-ce qu'on fonce vers la grande vitesse dont on a parlé, ces trains maglev à sustentation électromagnétique, faire du 700 km/h, ou bien est-ce qu'on se dit, eh ben, on décroît, on ralentit. Ça, c'est aussi des questionnements économiques, voire même philosophiques. Est-ce qu'on se dit qu'on prend ce temps du train, on s'installe dans un train et on repense l'usage du train ? Moi, je crois beaucoup à cette idée que d'optimiser le temps du train, pouvoir permettre dans un train ben, de travailler très bien, grâce bien sûr à une connexion Internet, d'avoir des espaces pour les enfants, de pouvoir visionner un film dans les meilleures conditions. C'est les Suédois qui avaient des rails cinéma, des rames cinéma avec un écran. Repenser les services, bien sûr, je pense, de restauration, ainsi de suite. Parce qu'il faut vraiment dire que les gens vont passer du temps dans les trains. Donc que ce temps soit vraiment un temps pensé intelligemment, autant pour celui qui veut rêver que celui qui veut travailler. Moi, je crois beaucoup à cette idée de repenser les usages. Vous le disiez aussi très bien pour les gares, pour les personnes âgées, pensez à cela. Ne pas être que dans la course à la grande vitesse, mais repenser notamment à ces territoires trop souvent délaissés. La force de la Suisse qu'on a citée, et que je cite un peu en modèle hein, ferroviaire, c'est que ben justement, par cette manière de quadriller tout le territoire, il n'y a pas de territoire délaissé. Le rail, ça permet vraiment une égalité de l'accès. Aujourd'hui, en France, évidemment, on pense encore beaucoup tous les axes à partir de Paris, à partir de la capitale. Cassons cela, permettons justement au train de désenclaver encore des territoires. Il a vraiment un rôle à jouer. Il faut l'inventer, il faut le réinventer, ça c'est sûr. Son offre de service, l'intérieur des rames, la conception même. Mais je crois que là, on a aujourd'hui, et ça c'est vraiment quelque chose de réjouissant, quand on parle avec les ingénieurs, le nombre d'ingénieurs excellents qui se lancent dans le rail, par aussi engagement environnemental et autres, ça nous dit qu'il y a beaucoup de talents exceptionnels aujourd'hui eh bien, qui vont aller travailler chez Alstom, chez Siemens, dans ces grandes firmes, aussi derrière à ceux qui exploitent ces trains, la SNCF, les opérateurs privés, et on aura de plus en plus du fait de la libéralisation. Donc tout ça est quand même très excitant.
C'est vrai que le train a conduit à des conséquences géographiques importantes, puisque ça contribue à façonner les territoires, vous l'avez dit, notamment en fait, de relier les villes moyennes entre elles, ou peut-être qu'un jour on retrouvera, quand on fait de la randonnée en France, on est souvent sur des anciennes lignes de train qui sont assez bien repérables parce qu'on a encore le terrassement. Qui sait, peut-être qu'un jour elles seront de nouveau remises en circulation et qu'on ne pourra plus faire de randonnée, mais qu'on pourra y passer en train.
Voilà, et je pense quand même qu'il faut se dire que se réfléchir un petit peu sur certaines politiques menées qui ont conduit justement à enlever les lignes de train pour les transformer, comme vous l'avez dit, en GR, parfois les transformer en rien du tout, et ne faisons plus ces mêmes erreurs.
Eh bien, merci beaucoup, Antoine Pecker, d'être venu au micro de Conflit. Je rappelle votre ouvrage Géopolitique du rail, le train au cœur des enjeux contemporains, qui est paru chez Autrement. Et comme à chacune de nos émissions, les références de l'ouvrage sont à retrouver sur le site de Conflit, revueconflit.com, site sur lequel vous pouvez également retrouver notre numéro, dont le dernier, qui est paru début janvier, le dossier est consacré au nucléaire. Et puis vous pouvez aussi retrouver les anciens numéros de Conflit, les acquérir en format papier ou numérique via notre boutique en ligne, et les numéros vous seront expédiés à votre domicile. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous retrouve la semaine prochaine.